André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur.
Bienvenue dans Théâtralité. Chacune de ses performances était une démonstration de l'agilité de son esprit, capable de transformer une simple phrase en une cascade de rire et de réflexion. À travers ses sketchs, il nous invitait dans un monde où le non-sens faisait sens, où le quotidien devenait extraordinaire et où les mots prenaient vie de manière insoupçonnée. Et dans cette deuxième émission que nous consacrons à Raymond Devos, nous rendons hommage à cet artiste incomparable en explorant, avec nos comédiens, ses plus grands jeux de mots témoignant de son génie comique et de son amour pour la langue française. Bonjour Françoise Bénard.
Bonjour André, bonjour à tous. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe Merlan.
Bonjour Françoise, bonjour André, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous pour nous dire des sketchs de Raymond Devos. Mais avant, nous poursuivons avec la suite de quelques éléments de sa biographie. Raymond Devos a débordé du monde du cabaret et conquis les salles de music hall comme Bobino en 1958. Le cinéma fait appel à lui dans quelques comédies pour le grand public. Le Sicilien de Pierre Chevalier avec Fernand Reynaud. Vous n'avez rien à déclarer de Clément Dufour avec Darry Cole. Le travail, c'est la santé de Louis Grospierre où c'était son premier rôle en haut de l'affiche. Il ne persévérera pas. Il ne se sent pas à l'aise au cinéma, dans le scénario, les mots ou la mise en scène d'un autre. Il retrouve un peu des vertiges, mais surtout beaucoup des frustrations qu'il a vécues dans la troupe de Jacques Fabry. Il dira, au soir de sa carrière, « Je ne suis pas un vrai comédien, je suis comédien de ma comédie ». Ce comédien de sa propre comédie est l'inventeur d'un art de la scène éminemment idiosyncrastique. Il se sent à l'étroit dans ce que l'on offre aux artistes du rire. Les chanteurs comme Charles Trenet ou Yves Montand osent sortir des formats habituels du tour de chant en 12 chansons et passent au récital. Ils pensent vite qu'il doit ajouter le geste au mot. C'est Robert Lamoureux, grande vedette comique, qui lui a fait comprendre au bout de 30-35 minutes les gens se lassent, surtout un rythme d'un rire à chaque phrase. Commençons par écouter Philippe, qui va nous dire quand, et Françoise, prêtez l'oreille.
J'avais dit pendant les vacances, je ne fais rien, alors rien, je ne veux rien faire. Bon, je ne savais pas où aller. Alors, comme j'avais entendu dire, à quand les vacances? À quand les vacances? Je me dis, bon, je vais aller à Caen. Et puis quand? Ça tombait bien, je n'avais rien à y faire. Je boucle la valise, je vais pour prendre le car. Je demande à l'employé, pour quand? Quelle heure? Pour où? Pour quand? Comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où est quand? Si vous ne le dites pas. Mais je vous ai dit quand? Oui, mais vous ne m'avez pas dit où? Monsieur, là, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure des départs des cars qui partent pour Caen. Enfin, Caen, dans le Calvados. Oh ben, c'est vague. Bah, en Normandie. Mais ma parole, vous débarquez. Ah, là où a eu lieu le débarquement. En Normandie, à Caen. Là, vous y êtes, oui. Ben, prenez le car. Ben, il part Caen. Il part au car. Mais le car est passé. Ah, ben si le car est passé, vous l'avez raté. Hein. Alors, et le prochain? Ah, il part à 7. Mais il va à Caen? Ben non, il va à 7. Hein. Mais moi, je ne veux pas aller à 7, je veux aller à Caen. D'abord, qu'est-ce que vous allez y faire à Caen? Rien, je n'ai rien à y faire. Alors, si vous n'avez rien à faire à Caen, allez à 7. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 7? Mais prendre le car. Mais pour où? Mais pour quand? Mais comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où est quand? Mais si je sais où est quand, ça fait une demi-heure que je vous dis que c'est dans le Calvados, que c'est là où je veux passer mes vacances, parce que je n'ai rien à y faire. Mais ne criez pas, on va s'occuper de vous. Il a téléphoné au dépôt. Mon vieux, regardant sa montre, il me dit à 22, le car était là, les flics m'ont embarqué à 7, et je suis arrivé au car où j'ai passé la nuit.
Mesdames et messieurs, si vous voulez bien me prêter une oreille attentive... Pff, quelle phrase! Voulez-vous me prêter l'oreille? Non. Il paraît que quand on prête l'oreille, on entend mieux. C'est faux! Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux. Il y a des phrases comme ça. Par exemple, j'ai ouï dire qu'il y a des choses qui rentrent par une oreille et qui sortent par l'autre. Or, je n'ai jamais rien vu entrer par une oreille, encore moins en sortir. Il n'y a qu'en littérature qu'on voit ça. Dans Rabelais, nous lisons que Gargamel a mis Gargantua au monde par l'oreille gauche. Ce qui sous-entend que par l'oreille droite, devait se passer des choses, des cris, des chuchotements, de quoi vous faire dresser l'oreille. Alors, on me dit, mais monsieur, quand on parle de choses qui rentrent par une oreille et qui ressortent par l'autre, on ne peut pas parler de choses vues, mais de choses entendues. J'entends bien. Un son peut entrer par une oreille, mais n'en sort pas. Par exemple, un air peut très bien entrer dans le pavillon de l'oreille. Une fois entré, il ne sort plus. Je prends un air au hasard, un air qui me traverse la tête. « Viens dans mon joli pavillon !» Eh bien, dès qu'il est entré dans le pavillon, il n'en sort plus, c'est fini. C'est ce qu'on appelle une rengaine. Une rengaine, c'est un air qui commence par vous entrer par une oreille et qui finit par vous sortir par les yeux.
Raymond Devos jongle avec les mots, avec des balles, des chapeaux, des massues. Il affirme des maladresses, il rate exprès. Et faire exprès est très difficile en la matière. Mime, évidemment, grâce à De Crousse et malgré De Crousse. Et puis, la musique. Guitare, violon, trompette, scie musicale, tuba, flûte, concertino, tambour, harpe, piano. Il disait, en allant au piano, au concertino, au violon, c'est comme si je changeais de pièce, même si l'essentiel est quand même le texte. Il transforme les instruments en accessoires de sketch, une contrebasse pondeuse, une clarinette molle, un trombone à triple coulisse. Clown, plusieurs formules peuvent s'appliquer. Clown sans paillettes, clown métaphysique, clown profond, clown pirandellien, clown de l'infini. Dans le Robert, des noms propres on peut lire. Il créa au musical et au théâtre des monologues où, prenant au pied de la lettre les expressions de la langue courante, il projette dans l'imaginaire comique, sur le ton de l'angoisse, des situations d'une absurdité clownesque. Il est l'ami du clown Grock, de Pierre et Tex, des Fratellini. Il fera un numéro en 1969 au Gala de l'Union des artistes avec un des plus grands clowns du siècle, Pipo, qu'il allait admirer en Belgique, enfant. Écoutons Philippe nous dire « oui dire » et Françoise, le petit poussin.
Il y a des verbes qui se conjuguent très irrégulièrement. Par exemple, le verbe « ouïr ». Le verbe « ouïr » au présent, ça fait « joie ». Joie. Si au lieu de dire « j'entends », je dis « joie », les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux, alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Il faudrait préciser « Dieu, que ce que joie est triste ». Joie, donc tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois, il oie. Oyons-nous, vous oyez, ils oient. C'est bête, hein. Loi, oie, elle oie, loi. Ce que nous oyons, loi l'est-elle. Si au lieu de dire l'oreille, on dit Louis, alors Louis de loi a oui. Pour peu que le loi appartienne à Louis, Louis de loi de Louis a oui. Ah oui. Et qu'a oui Louis de loi de Louis. Elle a oui ce que tout oie, oie. Et quoi tout oie? Tout oie, oie. Quand mon chien aboie le soir au fond des bois, tout oie, 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 oie. Quel oie, oie. Au passé, ça fait joui. Joui. Bah joui, bah il n'y a vraiment pas de quoi.
Récemment, je suis entrée dans une auberge pour y dîner et sur la carte, il y avait marqué « poussin rôti ». Et j'ai commandé un poussin rôti. Alors j'ai vu arriver un petit poussin là, dans une assiette. J'en ai fait qu'une bouchée dans mon gros ventre. Un petit poussin. Vous avez déjà vu un petit poussin? Mais c'est mignon à croquer. C'est une petite boule jaune. Ça fait cuit, cuit. Il n'était pas cuit. Et j'en ai fait qu'une bouchée dans mon gros ventre. Mais ça aurait été une vieille poule encore. Bon, dure à cuire. Elle a vécu. Elle a fait son temps. Mais un petit poussin. Tu aurais mieux fait d'aller me faire cuire un œuf. Oh, Ça ne vaut guère mieux. Chaque fois qu'on va se faire cuire un œuf, c'est comme si on envoyait un poussin se faire cuire. Parce que, qu'est-ce qui fait le poussin? C'est l'œuf. Et encore, on ne sait plus. Il y a ce fameux dilemme que chacun connaît. Qu'est-ce qui fait l'œuf? C'est la poule. Bon, jusque-là, il n'y a rien à dire. On est tous d'accord. Mais qu'est-ce qui fait la poule? C'est l'œuf. Alors, la question est, qui a commencé? Est-ce l'œuf le père de la poule ou la poule la mère de l'œuf? Ah, ça ne peut pas être le coq. Les coqs, eux, ne pondent pas d'œufs. Quoi qu'il n'y ait pas de poule sans œufs. Sans œufs, les coqs. Quand il n'y a pas de coq sans ailes, elles, sans ailes, les poules. Évidemment, parce que sans ailes, il n'y aurait ni coq, ni poule, ni poussin. Et ce serait tant mieux, parce que j'aurais mangé autre chose. J'aurais mangé du veau. Un petit veau. Vous avez déjà vu un petit veau là? Un vieux bœuf, pas son corps, il a vécu. Mais un petit veau. Vous avez déjà vu une petite tête de veau à la vinaigrette? J'aurais mieux fait de manger un œuf. Parce que, comme on dit, qui mange un œuf, mange un bœuf.
En septembre 1960, Raymond Devos est à l'affiche de l'Alhambra Maurice Chevalier. Au même programme que lui, des jongleurs, des chanteuses cubaines et un crooner américain qui ne chante qu'en français, Johnny Hallyday. Devant les quatre chansons survoltées du jeune homme, les adultes du parterre crient au scandale, tandis que les gamins du poulailler hurlent d'enthousiasme. Enguirlandés par les journalistes et les vedettes invitées à la première, le directeur parle de le retirer du programme. Devos menace de quitter l'Alhambra si Johnny est limogé. Voici Philippe avec Minorité agissante et Françoise avec Face au miroir.
Vous savez que jadis je faisais de la politique comme tout le monde. Je m'occupais de minorités agissantes. J'organisais des réunions publiques clandestines. Et au cours d'une de ces réunions, tandis que j'exposais mon programme, alors que la majorité de la minorité était d'accord avec mes idées, je remarquais à côté de moi un homme qui ne disait rien. Inquiétant, non? Un homme qui ne dit rien. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais quand un homme ne dit rien alors que tout le monde parle, on n'entend plus que lui. Redoutable. Je n'en continuais pas moins mon exposé, mais je commençais à faire attention à ce que je disais. De temps en temps, je me tournais vers celui qui ne disait rien pour savoir ce qu'il en pensait. Mais comment voulez-vous savoir ce que pense quelqu'un qui ne dit rien et qui en plus écoute? Car de plus, il écoutait. Je me dis, il est en train de saper ma réunion. Abrégeons. J'ai dit, mes amis, puisque vous êtes tous d'accord avec mes idées, là quelqu'un s'élève. Il m'a dit, monsieur, toute réflexion faite, nous serions plutôt de l'avis de ce monsieur qui n'a rien dit. Ben, ils ont quitté la salle. Sauf celui qui n'avait rien dit. Resté seul, je lui ai dit, monsieur, bravo, hein. Je viens de parler à ces gens pendant une heure et ils ne m'ont pas écouté. Vous n'avez rien dit et ils vous ont entendu. Chapeau, monsieur. Il m'a regardé, il a sorti sa carte, il a griffonné quelque chose dessus et me l'a tendu. Et j'y ai lu. Bien que sourd et muet, je suis entièrement d'accord avec vos idées. Alors depuis, je ne m'occupe plus que de la majorité silencieuse.
Qu'est-ce qu'il y a comme tête qui se perd? Dernièrement, je rencontre un monsieur qui se tenait la tête dans les mains. Il me dit, j'ai perdu la tête, j'ai perdu la tête. Bon, je lui dis, et celle que vous avez dans les mains? Il me dit, mais qu'est-ce que j'ai dans les mains? Il n'y a rien dans mes mains. Vous dites ça pour me rassurer, hein, mais je ne suis pas dupe, j'ai perdu la tête. Il faut que je la retrouve à tout prix, j'en ai besoin. Je lui dis, mais pourquoi vous avez besoin de votre tête? Mais pour me pendre. Bon, je lui dis, mais vous voulez vous pendre? Il me dit, mais oui, et je ne peux décemment pas me pendre sans ma tête. Je lui dis, mais vous pouvez toujours vous pendre par les pieds. Il me dit, mais ça ne m'est pas venu à l'esprit. Quelle réflexion, non? On va dire, oui, c'est pendu par les pieds, mais sa tête court toujours. Je me dis, bon, il s'entête, prenons le contre-pied. Je lui dis, à quoi ressemblait votre tête avant que vous ne la perdiez? Il me dit, à ça. C'est drôle. J'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Bah, il me dit, ça m'étonnerait. Je ne mets jamais les pieds. Je lui dis, tiens, vous avez l'air d'être plus grand là-dessus. Il me dit, bah, c'est que j'avais une tête de plus. Je lui dis, et puis, vous aviez déjà le regard fuyant. Il me dit, oui. Et comme ma tête a suivi mon regard, je l'ai perdu de vue. Et quand j'ai vu que c'en était à ce degré-là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour ce malheureux. Alors, j'ai sorti un miroir que j'avais dans la poche, le lui ai présenté. Je lui ai dit, dites donc, votre tête serait pas celle-là, par hasard. Il me dit, toute réflexion faite, si. Mais où était-elle? Ben, j'ai dit, elle était sous vos yeux. Il me dit, ah, c'est pour ça que je la voyais pas. Monsieur, vous me sauvez la vie. Je vais pouvoir me pendre sans arrière-pensée. Il a pris une corne. Il l'a accroché à une poutre. Il a fait un nœud coulant au bout de la corde. Il a passé le miroir dans le nœud coulant. Il a serré et il a pendu son miroir. Mais la corde s'est rompue. Et le miroir s'est brisé. Il s'est repris de la tête dans les mains. Il a dit, ma tête, ma tête. Alors je lui ai dit, bah quoi, vous l'avez retrouvée votre tête? Elle me dit, mais oui, mais maintenant, elle est cassée. Et il ouvre les mains et l'on découvre un visage complètement défait.
Après avoir porté au musical son art mûri au cabaret, Raymond Devos installe son univers au théâtre. Il écrit et met en scène Les Pupitres, créé en novembre 1961 au Théâtre Fontaine. La presse n'est pas étonnée de voir Devos à la clarinette, mais découvre que Pierre Doris est un excellent flûtiste ou Michel Roux un bon pianiste. Le clown Zavatta faisait aussi partie de la distribution. Précédé au printemps 1961 de Tête à gifle, une première version du spectacle au cabaret La Tête de l'Art, Les Pupitres est un succès. Avec l'appoint de la musique de Georges Delerue, la pièce séduit la critique et le public. Elle se double de l'engouement des gens du métier. La 350e des Pupitres en novembre 1962 est un événement pour le tout Paris du spectacle. La foule des grandes soirées. Jean Marais, Poiré et Serrault, Édith Piaf, Jacques Tati, Auguste Le Breton, Philippe Clay, Léo Ferré, etc. Au lever de rideau, c'est un orchestre exceptionnel qui est sur scène avec le virtuose Samson François au piano, Bourville à la trompette, Serge Gainsbourg et Guy Béard aux guitares, Maurice Baquet au violoncelle, Félix Martin au violon, Claude Nougaro au cymbale. Des extraits du spectacle enregistré au Théâtre Fontaine apportent à Raymond Devos le premier grand prix du disque du rire, offrant une longue série de récompenses et de succès discographiques. Et voici maintenant Philippe avec Félicité et Françoise avec L'homme qui fait la valise.
Il y a des expressions curieuses. Hier au soir, en sortant de scène, un monsieur me dit « Je me félicite de votre succès ». Je lui dis, mais vous n'y êtes pour rien. Hein. Et puis, à la réflexion, je me suis dit qu'il y avait tout de même, il était pour quelque chose. Alors j'ai rectifié, je lui ai dit, monsieur, je vous félicite de mon succès.
Il y a des gens bizarres, dans les trains, dans les gares. Dernièrement, je prends le train, j'entre dans un compartiment, je vais pour mettre ma valise dans le filet. Il y avait déjà quelqu'un. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, j'attends. Ben vous attendez quoi? Ben qu'on vienne me retirer. Mais qui êtes-vous? Je suis une valise. Une valise? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes une valise? Vous ne voyez pas? J'ai un côté cadre, hein, et je n'arrive pas à me recycler. Ben dites donc, vous vous portez bien, vous? Bof, je me porte comme une valise. J'ai des hauts et des bas. Mais avant d'être une valise, vous étiez bien quelqu'un? Oui? Oui, j'étais un voyageur sans bagage. Et alors? Bah, et alors? Le jour où j'en ai eu assez, j'ai fait la valise. Quel jour? Bah, le jour où ma femme a fait la malle. Ah. Vous avez de la famille? J'ai une sœur. Je pourrais peut-être la prévenir qu'elle vienne vous chercher. Oh, pensez-vous? Elle n'est pas assez grande pour voyager toute seule. C'est une toute petite valise. Il faut toujours la tenir par la main. Mais qu'est-ce que vous trimballez? Que des effets personnels. Mais enfin, mon vieux, réfléchissez. Vous ne pouvez pas être une valise. Mais pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas d'étiquette. Quel ballot je fais. Il est allé s'en acheter une.
Après le succès des pupitres, Raymond Devos peut poser ses valises. Il s'installe en 1963 à Saint-Rémy-les-Chevreuses, région boisée où il a trouvé une maison avec un grand parc et un étang. Il y vivra jusqu'à sa mort. Avant une étape intermédiaire à Saint-Maur, il avait quitté le quartier des Halles à Paris, mais aussi des voisins qui ne supportaient plus qu'il répète ses sketchs à pleine voix. Il ne devient pas pour autant une vedette isolée. Il entre dans la fanfare de la petite commune. On le voit régulièrement aux répétitions et participe à certaines sorties de la fanfare dans le bourg. Il fera construire une grange dans le parc pour qu'il travaille le jonglage, le trampoline et ses multiples instruments de musique qu'il pratique. C'est dans son jardin qu'il imagine et prépare un de ses numéros les plus étranges et les plus irrésistibles, poète et paysan. Il le créa en 1964 au Théâtre des Variétés. Un motoculteur entrant sur scène en taxant une harpe vers laquelle il pivote pour expliquer les effets apaisants de la musique sur la colère des paysans. Le spectacle des variétés est un choc. 35 sketchs pour presque 2 heures de spectacle, ce qu'aucun comique n'a osé jusqu'alors. Il parle, chante, danse, mêle les gags visuels et foudroyants aux lois de texte de plus de 5 minutes. Le succès dure 7 mois et semble sceller de manière définitive quelle sera la forme des spectacles de Devos, jusque dans la complicité construite avec son pianiste. Jean-Michel Thierry. Voici Philippe, ça peut se dire et ça ne peut pas se faire, et Françoise, alimenter la conversation.
On dit qu'un mime sait tout faire. C'est faux. Un mime ne peut pas tout faire. Un exemple. Un jour, je devais mimer un personnage qui n'avait rien à faire. Eh bien, je n'ai rien pu faire. Parce que ne rien faire, ça peut se dire. Ça ne peut pas se faire. En outre, je ne pouvais pas le dire que je ne pouvais rien faire, parce que le personnage qui n'avait rien à faire, en plus, il n'avait rien à dire. Le directeur de la salle me l'avait bien spécifié, il m'avait dit « Pensez bien ce que vous avez à faire. » C'est-à-dire, en fait, ne pensez à rien. Et il avait ajouté « Surtout ne le dites pas. » Et moi, je lui avais donné ma parole de mime que je ne dirais rien. Alors, je suis entré sur scène, j'ai commencé à ne rien faire. Sans rien dire. Ça n'a l'air de rien, mais il faut le faire. Hein. Il ne suffit pas de le dire. Et paradoxalement, plus je ne faisais rien, plus les gens dans la salle disaient « Qu'est-ce qu'il fait ?» Parce que le public, lui, il n'est pas fou. Hein. Il voyait bien que je faisais quelque chose, mais comme c'était rien, il se demandait ce que j'étais venu faire. Les critiques, eux, par contre, voyaient bien que je ne faisais rien. Et que je le faisais bien, seulement ils s'attendaient à plus. Et moi qui déjà ne faisait rien, je ne pouvais pas faire en moins. Alors, au bout d'un moment de la salle, les gens qui ne voyaient rien ont commencé à trouver à redire. Ils pourraient au moins faire un geste, avoir un bon mouvement. Parce que voyant, j'ai fait le seul geste que pouvait se permettre quelqu'un qui n'a rien à faire, sans que l'on puisse dire « il en fait trop ». J'ai fait mon geste impuissance. Les gens, qu'est-ce qu'il a dit? Alors là, j'ai rompu le silence, j'ai dit « mais je n'ai rien dit ». Qu'est-ce que j'avais dit là, le directeur? Rideau. Non seulement je paie un mime à ne rien faire, il ne fait pas, mais en plus il ne tient pas sa parole, il parle. Et il a ajouté, tenez, vous n'êtes même pas un bon à rien. Le lendemain dans la presse, qu'en ont dit les critiques? Eh bien, comme je n'avais rien fait, ils n'ont rien dit, mais en bien.
Mesdames et messieurs, avez-vous remarqué qu'à table, les mets que l'on vous sert vous mettent les mots à la bouche? J'en ai fait l'observation. Un jour, que je dînais seul, à la table voisine, il y avait 2 convives qui mangeaient des steaks hachés. Et, tout en mangeant, ils alimentaient la conversation. Alors, au début du repas, tandis que l'un parlait, l'autre mangeait, et inversement, l'alternance était respectée. Et puis, les mets appelant les mots et les mots les mets, se sont mis à parler et à manger en même temps. « Ce steak n'est pas assez haché, » disait l'un. « Il est trop haché pour mon goût, » disait l'autre. Et les mots qui voulaient sortir se sont heurtés aux mets qui voulaient entrer. Ils se télescopaient. Ils ont commencé à mâcher leurs mots et à articuler leurs mets. À très très vite, la conversation a tourné au vinaigre. À la fin, chacun ayant ravalé ses mots et bu ses propres paroles, Il n'y eut plus que des éclats de voix digestives et des maux d'estomac. Ils ont fini par m'entrinoquer. Et c'est à qui aurait le dernier rot. Puis l'un d'eux s'est penché vers moi, il m'a dit « Monsieur, on n'écrit pas la bouche pleine. » Depuis, je ne cesse de ruminer mes écrits. Je sais, vous pensez, il a écrit un sketch alimentaire, un sketch haché, et alors, faut bien que tout le monde mange.
De Vos a changé de statut. Grosse vente de disques, demande de spectacles que ses longues tournées ne peuvent épuiser. Multiples apparitions à la télévision. En 1965, Jean-Paul Godard lui fait jouer un moment absurde dans Pierrot le Fou. On parle d'un contrat par lequel il jouerait une pièce de Sacha Guitry au théâtre et 5 autres à la télévision. Il commence aussi à évoquer une nouvelle pièce pour sa troupe des pupitres. L'argument lui vient d'un sketch qu'il a commencé normalement et a vu se transformer sous son stylo en pièce de théâtre. La pièce s'appelle Extramuros. À partir de septembre 1967, au Théâtre des Variétés, il met en scène Pierre Doris, Paul Prébois, Pierre Maglon. Entre-temps, Jean-Luc Godard, pour jouer le premier rôle masculin de Weekend face à Mireille Darc. Mais les répétitions l'empêchent d'accepter et ce sera Jean-Yann qui fera le film. L'écrivain et éditeur Paul Guimard vient le voir et lui propose d'éditer ses textes. Le recueil « Ça n'a pas de sens » apparaît chez De Noël, fin 68. L'artiste de scène complet qui sait faire du monocycle et danser des claquettes entre enfin dans les bibliothèques. À cet automne 1968, il a créé à l'Olympia un de ses sketchs les plus passionnants, justement pour les professeurs de lettres, « Parler pour ne rien dire », dont Philippe nous en parlera la semaine prochaine. Merci Françoise, merci Philippe. Rendez-vous avec dans nos prochaines émissions pour d'autres lectures. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. « Quand on s'est connus, ma femme et moi, on n'osait pas se regarder tellement on était timide. Et maintenant, on ne peut plus se voir. » Elle est bien sûr de Raymond Devos. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de la radio altitudefm.com et toutes les informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale FNCTA-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.